au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission au fil des pages, je vous propose de vous intéresser à Paris. Paris qui n'a jamais été aussi bien mise en valeur qu'en chanson. On chante ses rues, Ménilmontant, mais oui madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Ou encore, je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi, mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. On pense aussi au vers d'Apollinaire, repris en chanson, sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont et je demeure. Ces stations de métro sont aussi au rendez-vous, Châtelet-Léal, station balnéaire, mais où il n'y a pas la mer. Ou Serge Gainsbourg qui chante « Je suis le poinçonneur des lilas », le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas, il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Mais rien ne vaut un Parisien à travers Paris, titre de l'ouvrage de notre invité, paru en juin 2009 aux éditions Robert Laffont, pour venir nous parler de ses impressions sur la capitale. Philippe Meyer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie, on ne vous présente
plus. Quand on a une vue aussi belle, il serait vraiment criminel de refuser. On a d'un côté le Louvre, de l'autre côté, enfin d'abord la Seine, un bout du Louvre, je ne sais pas si vos auditeurs savent tout ça, oui sans doute on leur a déjà dit, mais enfin on voit Paris comme on ne le voit pas de beaucoup d'endroits.
Philippe Meyer, j'ai le désir, on ne vous présente plus, écrivain, journaliste, vous animez actuellement deux émissions de radio, la première sur France Culture, Esprit Public, et la deuxième sur France Inter, la prochaine fois je vous le chanterai. Et puis vous animez également à Sciences Po un séminaire sur Paris. Pour poursuivre sur cette présentation en refrain, je vous propose de commencer par citer Thomas Dutronc, auteur et interprète de « J'aime plus Paris » et qui dit en substance « Je fais le plein d'essence, je pense aux vacances, je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens est gris, je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris, on court partout, ça m'ennuie, je vois trop de gens, je me fous de leur vie, j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit. » Êtes-vous aussi ce Parisien, Philippe Meyer ?
Tout le monde est ce Parisien. Tout le monde l'a toujours été. La littérature sur Paris, les chansons sur Paris sont pleines d'allers et retours entre le goût de la chance, le plaisir, la célébration, le contentement d'être à Paris et la colère, la déception, le dégoût, etc. C'est absolument typique des rapports des Parisiens avec Paris, enfin, en tout cas de ceux qui s'expriment, que ce soit par la chanson, par la prose, par la correspondance ou par la poésie. Vous trouveriez sous la plume des plus connus des auteurs qui se sont exprimés sur Paris, tout et son contraire. Précisément, d'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été publié là-dessus, qui est une thèse de Pierre Citron, qui a été fort heureusement réédité grâce à Jean Desreins, et qui s'appelle « Paris dans la poésie, des premières archives jusqu'à Baudelaire », et on y trouve ça tout le temps.
Alors, pour vous citer, vous avez choisi d'assembler des tableaux et des croquis rapportés de ces promenades par l'amoureux de Paris que vous êtes. Plusieurs tableaux, le bon dieu du pâté en croûte, j'espère que vous nous en direz un peu plus, les dromos monomanes et Voura citoyen, c'est le premier tableau, la vie nocturne où vous passez plusieurs nuits au SAMU social, le plus connu sous le 115, et puis également, alors je reprends le livre, une partie sur le 104, le centre 104, et puis une autre sur Paris-Plage, un grand rien bavard. Alors à chaque fois vous êtes assez critique, pas trop peut-être sur le bon dieu du pâté en croûte, c'est plus amusant et satirique, mais à chaque fois...
Non, c'est pas satirique, je me moque pas de ces gens qui sont très exactement ce qu'on appelle des braves gens, c'est-à-dire des gens qui sont le sel de l'humanité, c'est pas moi qui vais me moquer des charcutiers, compte tenu d'abord que je contribue beaucoup à leur fortune, que je cherche toujours un charcutier meilleur qu'un autre, que je fais des kilomètres et des kilomètres dans Paris à vélo pour trouver, enfin parce que j'ai repéré la bonne andouillette à tel endroit, le bon boudin à tel autre, le bon jambon. Non, c'est, je raconte dans ce chapitre la messe annuelle du souvenir des charcutiers.
Les charcutiers.
Je raconte avec bonheur, je me réjouis du fait que c'est une tradition comme celle-là ait pu tenir pendant 200 ans sans aucune interruption, en dépit des périodes de guerre. Enfin, songez que sous la Commune, alors qu'on en était réduit à manger du rat après avoir mangé l'éléphant du Jardin des Plantes, songez que sous la Commune, les charcutiers continuaient à célébrer la messe. Et alors, ce qui est surtout impressionnant dans cette messe, évidemment, c'est la messe elle-même, son rituel, la confrérie, etc.
La messe du souvenir de la charcuterie.
Mais c'est le fait que, dans l'abside de l'église Saint-Eustache, qui est la grande église des Halles, dans laquelle on tient à peu près 1200 personnes, et je peux vous dire qu'elle est pleine quand il y a la messe du souvenir de la charcuterie, c'est qu'il y a un buffet, et que ce buffet est évidemment composé, fait, fabriqué par les charcutiers qui assistent là à la messe. C'est vous dire que c'est un jour où on va à la messe de gaieté de cœur, mais où on est un peu impatient d'entendre le non plus l'itémissa est, parce que si encore que d'ailleurs c'est à Saint-Eustache, on dit la messe moitié en français, moitié en latin, il me semble bien qu'on dit l'itémissa est.
Donc vous avez assisté à cette messe du souvenir de la charcuterie, c'était il y a peu de temps j'imagine, puisque tous les faits que vous relatez sont assez récents.
Oui, enfin c'est tous les ans au mois de novembre, donc oui. Voilà, c'est de ce côté-là, on est sûr de la date. Le reste vient de divers moments, c'est-à-dire que si vous voulez, moi je suis un amateur de Paris, donc quelqu'un qui est passé, comme tous les amateurs de Paris, par les hauts et les bas que Thomas Dutronc chante dans sa dernière chanson sur Paris, mais ça veut dire aussi que je passe mon temps à arpenter Paris par plaisir, parce qu'une découverte en appelle une autre, c'est ça la récompense de la curiosité, c'est de la curiosité supplémentaire. Donc voilà, donc à un moment donné, quelque chose se forme dans votre esprit autour de quoi vous avez envie d'écrire. Alors, il y a une dizaine d'années, j'avais écrit sur quelque chose qui me paraissait vraiment important, qui était le danger pour Paris de devenir une ville homogène socialement, c'est-à-dire très embourgeoisée, pour dire les choses comme elles sont, donc se rejetant à la périphérie d'abord les très pauvres, puis les pauvres, puis les moyens pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont des revenus fixes, je pense aux personnes retraitées, ou aux veufs ou aux veuves, et puis le danger de voir une ville organisée de plus en plus pour les touristes de passage, 24 millions l'année dernière, ça fait beaucoup de monde. Il y a 2 millions d'habitants à Paris, il y a 24 millions de touristes. Et donc, un peu sur la nécessité de contrer cette évolution. Et puis voilà, 12 ans après, dans ces 12 ans, il se sont passés beaucoup de choses, notamment 7 ans d'une municipalité tout à fait nouvelle par rapport à... Il ne faut pas oublier que de 1977 à 2001, c'est la même municipalité avec presque le même maire. Le second maire ayant été Jean Tibéri, ayant été le bras droit du premier pendant très longtemps. Donc voilà, donc à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a de quoi organiser, si vous voulez, vos observations.
Vous avez la plume acérée. Un chapitre sur l'art pauvre qui, en fait, parle du 104. Alors, le 104, c'est un lieu de culture qui a ouvert ses portes en 2008. Et vous faites une visite avec, le commissaire ou le directeur de l'exposition
du 104. Non, le 104, d'abord, il faut... Certains de vos auditeurs qui sont des Parisiens ou qui ont été des Parisiens de longue date ont l'habitude d'entendre parler du 104 comme du 104 rue de Vaugirard, qui était un endroit mythique pour les gens qui s'intéressaient à la politique, parce qu'il en était sorti un certain nombre de gens, dont François Mitterrand, qui avait été... le 104 était simplement une sorte d'internat, enfin de chambre de cité universitaire mise à la disposition par les frères maristes d'un certain nombre d'étudiants méritants, et beaucoup de provinciaux qui sont lancés dans la politique étaient passés par le 104. Maintenant, le 104, c'est rue d'Aubervilliers, c'est complètement ailleurs. C'est-à-dire, c'est tout à fait dans le nord de Paris, et c'est l'ancien local des pompes funèbres. On l'appelait l'usine à deuil dans le quartier. C'est très très grand, c'est très très grand. Il y a 15 000 mètres carrés. C'est la surface de la place de la Concorde à un poil près, si vous voulez. Et avec des bâtiments qui ont été, non pas construits par Baltard, mais supervisés par Baltard, qui sont très beaux, très élégants, très fins, avec un mélange, comme d'habitude, de fer, de pierre, de briques et de verre. Et qui ont été remarquablement restaurés, je dois dire, c'est-à-dire restaurés avec... quand ils ont été prolongés, ça a été dans le même esprit, et quand ils ont été seulement restaurés, ça a été avec une grande élégance et un grand respect de ce qui était fait. Et à l'intérieur de ce 104, la municipalité... D'ailleurs, on ne sait pas très bien qui, parce que pendant un certain temps, maintenant que ça ne marche pas, plus personne ne se dispute pour savoir qui a lancé l'idée.
Qui a la paternité.
La précédente municipalité, celle de Jacques Chirac et de Jean Tibéri, disait que c'était elle qui avait eu l'idée de faire là un grand centre d'art, d'exposition, d'hébergement, de résidence d'artistes, de formation, de scènes, etc., diverses et variées, d'ateliers ouverts au public. Bon, maintenant, ils n'ont plus l'air de revendiquer beaucoup cette paternité. Et voilà, cet endroit qui a été très bien réaménagé, qui a été ouvert en il n'y a pas très longtemps, me paraît être un échec de conception, un échec de réalisation et un échec financier, puisque tout ça coûte quand même 8 millions d'euros par an en frais de fonctionnement, ce qui n'est pas rien, que le seul... Alors, tout le discours, parce qu'il faut dire qu'on est entré dans une époque où la politique est souvent remplacée, pour ne pas dire tout le temps, par la communication. Alors, tout le discours qui tient lieu de politique nous explique que c'est pour mettre en contact l'art contemporain avec les populations locales, les populations de ces quartiers dits défavorisés de Paris, que sont les quartiers nord et nord-est, ou nord-ouest même de Paris. Bon, je veux bien, mais il se trouve que la population en question n'a pas l'air d'être très au courant du fait qu'elle devrait, pour son bien, aller dans cet endroit. Il faut reconnaître que je ne vois pas très bien ce qui pourrait l'inciter, ce qui fait que jusqu'à présent, la seule participation de la population à la vie de ce 104, de ce centre d'art contemporain, c'est le comité des mal logés qu'il a occupé au mois de juin, en trouvant que ça ferait quand même pas mal de logements. Voilà à peu près ce que j'essaye de décrire du 104, ainsi qu'une exposition temporaire qui avait lieu et qui est très drôle parce que c'était faite par un étudiant des Beaux-Arts en résidence qui s'était lui baptisé commissaire de sa propre exposition, et sa propre exposition était une parodie de ce que sont beaucoup d'expositions d'art contemporain, mais une parodie faite avec un sérieux absolument extraordinaire et que j'ai mis d'ailleurs un certain temps à déjouer. Il a fallu au moins... je décris cette parodie, mais on peut vraiment parler de parodie. Oui.
Vous parlez aussi du paradoxe, puisque le 104, comme vous le disiez, est situé rue Aubervilliers, à côté d'une cité où justement on peut avoir justement cette mixité entre le 104 et l'art contemporain qui s'ouvre au grand public, et cette cité où il y a parallèlement la drogue qui circule assez facilement.
Je ne crois pas que la drogue soit un obstacle à l'art contemporain, ni l'art contemporain un remède à la drogue. Mm-hmm. Mais ce qui est clair, c'est que si on veut, il y a là des cités qui ont des histoires, avec des gens qui y vivent, qui ont leur propre... qu'on ne peut pas prendre pour des indigènes qu'il faut catéchiser, évangéliser, moraliser, etc. Si on veut proposer quelque chose à une population, il faut lui manifester le respect, non pas en parole, non pas dans des grands actes cérémonieux et censés être symboliques, mais en essayant de savoir comment elle vit et où seraient les meilleurs endroits pour lui faire ses propositions de s'intéresser à des choses auxquelles on pense que ça vaut la peine de s'intéresser parce que ça rend la vie de chacun meilleure. C'est au fond l'une des choses qu'on attend de l'art, c'est qu'il nous sorte de cette espèce de prison que chacun d'entre nous est pour lui-même, qui nous rende capable de voir les choses autrement que nous ne les voyons spontanément et d'une manière un peu habituelle, qui finit par se pétrifier et d'accéder à d'autres expériences, à d'autres façons de voir le monde. Ça ne se décrète pas avec cette bonne conscience qui personnellement m'exaspère parce que je suis anticlérical. Je veux dire, précise même, je suis un croyant anticlérical. Je n'aime pas ces organisations qui perdent complètement de vue le but qui est le leur pour finir par ne perpétrer que leur propre pouvoir, leurs propres rites, leurs propres avantages, leurs propres habitudes. Alors il y a des clercs laïcs qui sont les universitaires, puis il y a des clercs religieux qui sont ceux dont on parle le plus souvent. Et puis maintenant il y a les clercs politiques, c'est-à-dire les gens qui... La politique, non, c'est difficile, ça suppose des conflits, ça suppose la capacité à les assumer, à trouver des solutions, trouver des compromis, etc. C'est fatigant. Tandis que quand on veut faire le bien du peuple, en lui apportant l'art et en expliquant que tous ceux qui critiquent ce genre d'hypocrisie sont des gens qui sont contre l'art, effectivement, on s'est épargné les soucis et les fatigues de la politique.
Pour terminer, Philippe Meyer, venons-en au dernier tableau, consacré à Paris-Plage, tableau que vous intitulez « Un grand rien bavard ». Et où là, de même, si je puis me permettre, vous n'y allez pas de main morte sur ce que vous pensez de Paris-Plage.
Non, franchement, je trouve que vous me prêtez une colère exagérée. Je m'en moque, mais voilà, c'est tout.
Je peux vous citer ? À vrai dire, ce qui étonne dans Paris-Plage, c'est le décalage entre le peu de choses, le peu d'idées, le peu d'ambition de cette attraction et le tintouin que ses promoteurs font résonner autour d'elle. Ce qui est bouffon dans cette opération, c'est la logomachie qui l'entoure.
Ben voilà, c'est comme ce que nous venons de dire du centre de la rue d'Aubervilliers. C'est, comme dirait l'autre, beaucoup de bruit pour rien. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a des tas d'autres choses à faire, à côté desquelles, pour le moment... L'État, la ville, beaucoup de mécènes sont passés. Et je pense notamment à cette opération, je me permets d'inviter tous ceux qui seront ou qui passeront par Paris cet été à guetter les programmes de cette manifestation qui s'appelle Paris Quartier d'été, qui depuis une vingtaine d'années, avec des moyens qui ne cessent de ne pas s'améliorer, propose quantité de choses dans quantité d'endroits. C'est-à-dire qu'on y a à la fois des manifestations artistiques populaires, je pense par exemple à Achille Tonic, qui a été un cabaret extrêmement drôle, qui était sous une tente de chapiteau et qui a donné Shirley et Dino, spectacle qui est ensuite allé à la télévision où il a fait les belles soirées d'Antenne 2. Entre ça et les tragédies grecques données en grec dans des squares du 19e arrondissement, il y a toute la gamme possible des spectacles populaires ou savants, mais tous remarquablement accomplis et tous d'une remarquable qualité. Ça donne vie à la ville et ça donne en même temps à ceux qui sont assez curieux pour aller voir ces spectacles l'occasion de découvrir des endroits de la ville qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire de sortir du précaré dans lequel le tourisme en général se déplace, non sans raison. Évidemment, tout ça n'enlève rien à la beauté du Louvre que je suis en train de regarder par votre fenêtre avec la Seine en premier plan et des arbres en fleurs et des touristes, non pas en fleurs, mais en sueur.
Donc parisiens et touristes, ouvrez les yeux, il y a aussi d'autres choses en plus des grands événements que nous connaissons. Merci Philippe Meyer, je redonne le titre de votre ouvrage Un Parisien à travers Paris, publié aux éditions Robert Laffont en juin 2009. J'attire aussi l'attention des auditeurs sur les séries de petits portraits que vous faites, notamment les portraits que les gens que vous rencontrez au SAMU social, et puis également cette femme, cette voisine d'à côté, Armelle. Souhaitez-vous rajouter quelque chose,
Philippe Meyer ? Non, simplement Meyer sur ces portraits, oui, effectivement, c'est-à-dire mon livre n'est pas un livre politique le moins du monde, c'est Un Parisien à travers Paris, le titre dit je crois ce que c'est. Alors évidemment, ce Parisien, quand il voit des choses qui le font sourire ou qui le rendent un peu ironique, il les raconte. Et là, on en a abondamment parlé. Mais c'est aussi, et merci de l'avoir suggéré d'en dire un mot, c'est aussi ces deux chapitres, l'un consacré à l'envers de ce qui rend Paris aimable. Paris a, depuis toujours, on raconte, tout le monde écrit que ce qui est bien à Paris, c'est qu'on est à l'abri de ses voisins. On n'est pas obligé de satisfaire la pression sociale sur vous. Mais en même temps, l'inverse de ça existe. Et ça revient à ce que nous disions au début. Les choses qui vous font aimer Paris peuvent vous le faire détester. Et l'histoire de cette femme, qui n'est plus une jeune femme maintenant, elle a presque 60 ans, que je raconte, les 40 ans de cette histoire sont un roman à l'intérieur de Paris. C'est quelqu'un que personne ne voit et qui se fait gruger, exploiter, piller, enfin, et mille choses, et personne ne la voit jamais, et c'est l'envers de cet avantage qu'on a à Paris à être son propre maître. Quant aux gens, j'ai passé en effet des nuits avec les maraudes du SAMU social, ceux qu'on raconte, je raconte aussi bien d'ailleurs qui sont ces gens du SAMU social qui ont une très grande délicatesse avec les personnes sans-abri qu'ils rencontrent, que ce que sont et comment vivent ces personnes sans-abri qui souvent sont à la fois dans le cliché et en même temps, à côté du cliché. On pense, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui vit financièrement, qui n'a aucun problème, qui a une retraite qui dépasse le SMIC de 50%. Mais voilà, et à un moment donné, une série de petits abandons, de petits relâchements, de petits événements, de petites choses ont fait qu'il s'est trouvé à la rue. Maintenant, il est à la rue. Il considère qu'il ne doit plus rien à personne, il ne paye pas d'impôts. Il a une petite cache où il met ses vêtements. Et il va tous les jours. À la même heure, dans le même restaurant chinois, manger le même plat depuis maintenant 7 ans.
Je vous remercie Philippe Meyer. Je redonne le titre de votre ouvrage, Un Parisien à travers Paris. Merci.